Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Les grands débats du matin, ce matin à 8h50 avec Christine Bouillot. Vos appels au 0826-300-300, on va revenir sur cette question du jour justement qui concerne Christophe Lagarde et sur les propos qu'il a tenus face à sur Éric Zemmour. Une balle dans la tête, dit-il. Pour l'instant, vous dites que c'est indigne d'un élu à 86%, une dérive de débat 7%. En majorité, en tout cas, vous êtes contre. Ludovic nous dit, l'appel à la haine n'a pas sa place dans notre pays. L'ostracisme montré par certaines personnes politiques dénature le débat d'idées.
Oui, il y a même Teudry qui dit qu'il aurait dû être mis de suite en garde à vue, poursuivi, jugé et condamné, comme tout citoyen. Mais ça se passe comme ça. On va en parler avec Christine. Et puis les autres sujets également qui vous interpellent, vous n'hésitez pas, 0826-300-300. En ligne avec nous.
Lionel qui nous appelle de Grasse. Bonjour Lionel.
Bonjour Lionel.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Oui, Lionel, c'est ce sujet qui vous fait réagir, hein, notamment sur cette déclaration de Jean-Christophe Lagarde hier.
Oui, déjà, faire parler les morts, c'est toujours facile.
Ouais.
C'est toujours très pratique, en fait, hein, de faire parler les morts. Maintenant, Pasqua, c'était pas un enfant de cœur, faut être clair. Face à un polémiste comme Zemmour, qui monte un peu le machin, moi, je pense que ça montre surtout une grosse, grosse crispation, parce que les LR sentent le vent venir qu'ils vont disparaître comme la gauche, hein, parce que la gauche est quand même pas mal inexistante et en a pris plein la tête. Finalement, dans le paysage politique, reste Macron. Il reste un peu l'écologie parce que les gens ont quand même une conscience maintenant écologique qui remonte un petit peu. L'extrême gauche a disparu, la gauche a disparu. Il reste l'extrême droite en fait. Voilà, la droite est en train de disparaître parce qu'elle se fait torpiller les idées d'un côté et de l'autre. Mmh. Voilà, donc en fait ils sont en train de sentir le vent tourner, donc ça crée une crispation. Après, Pasqua, c'était quelqu'un de très malin. Je pense que très franchement, il aurait plutôt récupéré Zemmour plutôt que de lui mettre une balle dans la tête, ça c'est sûr et certain.
Ah bah oui, non mais probablement Lionel, oui. Bonne réflexion. Christine Bouillot, c'est vrai que comme le dit Lionel, vous pouvez rester avec nous quelques instants bien sûr aussi, ça reflète aussi la crispation en fait du débat politique en fait actuel avec certains qui ont du mal à exister quoi, Christine.
Bah oui, c'est typiquement le genre de sortie politique où on essaye d'exister et on dérape. Voilà. Donc même s'il s'est excusé derrière platement et avec une réponse tout en ironie de Éric Zemmour, je pense que si on prend chaque personnalité politique aujourd'hui, on peut retrouver des propos qui sont ou exagérés. On cherche la punchline, il faut exister médiatiquement, il faut créer le buzz. Et donc ça donne ce genre de propos et de dérapage contrôlés. Mais souvenez-vous, hein, Jean-Christophe Lagarde, quand il était sur Sud Radio, quand vous l'avez interviewé, Patrick, il avait des propos qu'on ne lui connaissait peut-être pas, donc il y a une forme aussi d'envie de sortir de, on va dire, d'une certaine réserve ou d'une certaine forme de, on va dire, de normalité qui finalement est celle du débat public, parce que c'est jamais bon ce genre de sortie, parce que ça ne fait qu'exacerber les camps les uns contre les autres au lieu de faire avancer le débat d'idées.
Oui, c'est vrai, vous avez raison à ce sujet, parce que l'UDI n'aura pas de candidat, hein, donc à cette présidentielle. Ils ont décidé de se ranger derrière les candidats qui vont émerger à droite, là. Donc, beaucoup de difficultés. Il y a même l'autre UDI, Philippe Laurent, qui était, entre guillemets, cornaqué un peu par la Macronie pour le congrès des maires. Donc, besoin d'exister, mais de là à aller jusqu'à une telle provocation, c'est ça qui est un peu regrettable, hein, comme vous le disiez, en fait, Lionel, quoi.
Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est le problème, c'est qu'on n'a plus que ça. Les médias, et je vous inclus dedans, mais c'est un peu votre rôle aussi, c'est que vous pointez ce genre de conneries.
Oui, c'est vrai.
Et le problème, c'est qu'on parle plus que de ça et on parle pas finalement du fond qui serait les idées pour faire avancer un petit peu. On va parler des punchlines des uns et des autres, que ça soit la plus grosse des conneries ou et toutes les bonnes idées finalement sont un peu passées sous silence parce que ça fait pas vendre. C'est un peu ça, moi, qui me.
Ouais. Qui vous désespère
ça me désespère complètement. Alors, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux là. Ouais. Et remettre un Macron au pouvoir, chacun y trouvera sa place ou pas. Mais je pense que quand même, vu ce qu'on vient de traverser, ça serait quand même pas mal d'avoir des gens quand même qui proposent des choses et de plus parler de leurs idées que de parler des punchlines un peu débiles comme
non,
ça.
Mais ce n'est pas faux. Bon, on essaie de donner la parole à tout le monde et de faire parler un petit peu tout le monde sur tous les sujets. Et quand il y, mais quand il y a des mots tels que ceux-ci
ça
aussi,
bah,
ça fait réagir. Et c'est pour ça aussi qu'on débat un peu sur cette histoire sans occulter complètement. Vous avez raison. Les questions en fait de fond et beaucoup d'auditeurs. D'ailleurs, on le voit, hein, beaucoup d'auditeurs, d'électeurs potentiels attendent d'avoir des idées supplémentaires, des programmes supplémentaires pour pouvoir aussi se prononcer dans leurs intentions de vote, parce que beaucoup des sondages que l'on voit en fait actuellement, bien souvent vous voyez que 50% de ces personnes n'ont pas encore décidé. Christine, hein.
Oui, alors c'est un peu le côté schizophrénique de la période de l'époque que l'on vit. Si les candidats n'ont pas de proposition de mots choc, on n'en parle pas. Et si on n'en parle pas, on dit on n'a pas le débat d'idées. Donc voyez un peu le serpent qui se mord la queue dans cette histoire-là. Quand on prend par exemple le cas d'Éric Zemmour, lui-même le disait au tout début, hein, il y a quelques mois quand il a commencé son tour de France d'un presque candidat, il disait je veux imposer mes idées, je veux donner le rythme de cette campagne et du temps médiatique. Et donc, c'est comme ça qu'est arrivé sur la table des sujets extrêmement clivants, extrêmement percutants, et qui étaient repris inévitablement, puisque c'était totalement, ou en tous les cas, nouveau, percutant. Ça posait beaucoup de questions derrière, et donc ça faisait réagir. Et donc, les médias étaient effectivement pas en train de suivre, mais d'essayer d'expliquer ce phénomène-là. Donc, tout le monde aujourd'hui est sur ce rythme-là, et je ne sais pas si on va être capable, enfin en tous les cas dans cette campagne présidentielle, de revenir à une forme de normalité. Bon, en même temps, il y a eu un débat des Républicains hier soir. Ça s'est plutôt passé de manière, entre guillemets, plutôt consensuelle. Donc on voit bien que c'est possible. Après, est-ce que c'est un dérapage aussi de Jean-Christophe Lagarde à titre personnel? Ça, c'est aussi une vraie question.
Oui, merci Christine Bouillon. On va poursuivre dans un instant. Vous restez avec nous, Christine. On va parler de la cohabitation entre les ours et les habitants des Pyrénées. Hein, donc avec ce qui s'est passé ce week-end. On reviendra aussi, d'ailleurs, tout à l'heure à 9h15, sur du fond. Macron, la révolution inachevée. C'est Guillaume Tabar qui a écrit en fait ce livre, Le bilan d'un quinquennat, tout ça pour ça, point d'interrogation. Nous verrons ça ensemble et vous pouvez évidemment poser vos questions au 0826 300 300.
Et dans quelques instants, on fera un point sur l'actu, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h05, on va revenir sur cette information, hein, qu'un chasseur attaqué par une ours en Ariège. Vous voulez nous en parler, donner votre avis, vous êtes chasseur ou non, vous êtes plutôt écolo, 0826 300 300. On en parle tout de suite avec Kamel Chibli, troisième vice-président de la région Occitanie, délégué de l'éducation, de l'orientation, de la jeunesse et des sports. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Kamel Chibli. Et puis oui, les auditeurs donc peuvent réagir. Est-ce que vous êtes choqué par ça, dans un sens ou dans un autre? Est-ce que les chasseurs doivent éviter d'aller dans ces zones? Est-ce qu'on a réintroduit beaucoup trop d'ours? N'hésitez pas, 0826 300 300, vous nous appelez comme nous posons cette question sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, un mot avant peut-être de poursuivre, Kamel Chibli, en fait, sur le chasseur qui a abattu en fait cet ours. Lui, il a été hospitalisé en fait.
Tout à fait, il a été hospitalisé en fait d'abord au centre de l'hospitalier de Foix, et puis au vu de sa situation, il a été héliporté à direction à Toulouse parce que forcément les blessures étaient trop graves, et il est pris en charge donc sur Toulouse. Oui, il a été gravement blessé puisque je vous rappelle qu'il a été tiré par l'ours sur plusieurs mètres avec des attaques. Vous imaginez, on parle d'un ours de plus de 200 à 300 kilos, hein, donc on est sur un animal sauvage aussi et qui est forcément attaqué par crainte pour ses enfants, donc oui, forcément. Ouais. Bah, sur votre question, honnêtement, hein, les réintroductions successives ont été une catastrophe pour la simple bonne raison qu'elles n'ont pas été faites en concertation. La dernière était l'ancien ministre de Rugy qui avait profité d'un moment d'apaisement pour réintroduire les ours sans forcément donner le lieu ni l'endroit, et forcément ça n'a pas créé que des choses. Ça n'a pas permis, on va dire, d'accepter l'ours qui était déjà introduit depuis des années, mais forcément les réintroductions successives ont été un échec, ça c'est sûr. Après, sur votre question des chasseurs, les chasseurs, vous savez, ils sont là depuis des années, pour pas dire des décennies, l'ours, vous allez me dire, depuis des siècles, l'ours avait disparu. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ce qui arrive aux chasseurs aurait pu arriver à un randonneur, et en toute sincérité, moi je n'ai pas été surpris de l'accident.
Oui,
je pensais même que cet été, on aurait pu avoir, vous savez, que nos montagnes, depuis le Covid, beaucoup de randonneurs. 1800 mètres, c'est vous et moi, on peut aller se balader à 1800 mètres. Oui. Donc ça aurait pu tomber sur vous, sur moi, sur n'importe quel randonneur toulousain.
Parce que, à combien estime-t-on le nombre d'ours aujourd'hui dans les Pyrénées,
dans cette zone ? Dans les Pyrénées, dans cette zone-là, on est plus de 40 ours, c'est-à-dire 80% des ours sont concentrés sur les Pyrénées ariégeoises et sur cette partie-là en plus du Couserans. Ouais. Qui fait qu'ils s'y plaisent et ils y sont. Donc forcément, c'est une zone à risque, clairement, hein, ouais. Très dangereuse. Donc ouais. Forcément, pour les éleveurs qui sont nombreux de ce côté-là, c'est un vrai problème.
Là, en l'occurrence, ce ne sont pas forcément des éleveurs, ce sont aussi des chasseurs. Quoi. Oui, des chasseurs. Quoi.
Mais les chasseurs, vous savez, il faut les gens, alors j'imagine que dans votre antenne, beaucoup de gens vous appelaient en protestant, en attaquant les chasseurs. Moi, je veux juste rappeler
quelque chose. Non, c'est partagé, en fait.
Mais vous allez voir, mais de toute façon, plus on s'éloigne de la montagne, plus on a une grosse, une belle image de l'ours, qui est logique. L'ours reste une image d'enfant pour beaucoup de gens. C'est la peluche, c'est le petit ourson. La réalité aujourd'hui, c'est que sur ces montagnes-là, les chasseurs eux-mêmes, heureusement qu'ils y sont pour parfois permettre à nos sites de randonnée, c'est eux qui quand même maintiennent les randonnées, qui les entretiennent, tous ces chemins de randonnée sur le territoire global départemental, et s'ils n'étaient pas là, ce serait encore plus difficile. Donc la solution, des vraies solutions, il n'y en a pas. Si certains vous diront, il faut les retirer. Alors les retirer, je ne suis pas sûr que le gouvernement accepte de les retirer. Non. Maintenant, il y avait des idées, il y avait des cantonnements. Alors est-ce qu'on fait un parc à ours ? C'est plus la même logique.
Ah oui, c'est autre chose. Ouais, ouais.
Bien sûr, mais à un moment donné, il faudra qu'on fasse attention, parce que là, on parle d'un accident grave, mais si vous avez la même chose qui se reproduit dans les prochaines semaines, en période estivale, avec des enfants ou des parents qui se promènent, je peux vous garantir qu'il y aura un effet catastrophique sur la manière dont on gère l'ours. Ouais. Voilà, l'État aujourd'hui patine avec ce sujet.
Christine Bouillot, vous êtes allée hier sur place aussi, hein ?
Oui, alors c'est vraiment le dossier dont on n'arrive pas à voir l'issue potentielle. C'est-à-dire que l'ironie de la situation, si je peux me permettre cette paraphrase, c'est qu'aujourd'hui est nommé un préfet ours ici en Occitanie. C'est-à-dire que l'État dépêche un préfet spécialement dédié pour essayer de faire discuter tout le monde et trouver des solutions. Mais comme le dit Kamel Chibli, des solutions, il n'y en a pas 40. C'est-à-dire que l'ours ne pourra pas être enlevé des Pyrénées. L'ours ne peut pas être parqué parce que c'est une espèce en voie de disparition, protégée par, on va dire, des directives européennes, des textes européens qui sont aujourd'hui très stricts. Et donc, il faut trouver une solution pour cette cohabitation dans des zones de montagne qui sont uniques en Europe. Souvent, on compare avec la Slovénie, on compare avec ce qui se passe du côté espagnol, par exemple. Là, en Cantabrie, vous avez des ours aussi. Ou en Italie. Sauf que ce système de vie en montagne est assez unique en Europe, c'est-à-dire ces vies de pastoralisme, ces bergers qui vivent en montagne, qui ont leurs troupeaux, qui sont en estive pendant une grande partie de l'été. Et puis se rajoute un autre phénomène aujourd'hui, c'est l'attractivité touristique de la montagne. Et c'est vrai, la vraie question aujourd'hui, c'est comment faire cohabiter ces ours dans ce territoire. Alors quand on se balade dans le Couserans, et si vous allez sur ce secteur où étaient les chasseurs pendant cette battue qui était parfaitement légale, elle était parfaitement déclarée, parfaitement organisée, pour chasser le sanglier qui prolifère lui par contre de manière exponentielle, c'est vrai que vous vous dites, mais il y a la place pour tout le monde. Pas forcément la place pour tout le monde, il y a des passages où tout le monde doit se croiser, l'ours, le randonneur, le chasseur, le pêcheur.
C'est insoluble, insoluble.
Ouais. C'est absolument insoluble. Alors peut-être que des moyens modernes feront que, mais je remets...
Avant de donner la parole aux auditeurs, un mot encore de Kamel Chibli et on va continuer avec vous. Et puis et ça appelle au 0826 300 300.
Oui, ce qui a été dit sur le préfet ours, il faut savoir que depuis 20 ans, on a toujours un préfet ours. En général, c'était le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Girons qui était nommé, qui réunissait. Le problème, c'est que les acteurs du pastoralisme sont aussi arc-boutés en disant « nous, on ne peut pas cohabiter ». On a des éleveurs qui sont aujourd'hui meurtris, qui ne veulent plus reprendre l'élevage. En même temps, l'ours, effectivement, comme ça a été dit à l'instant, il fait partie du paysage avec notamment cette volonté de créer de la biodiversité sur le territoire. Nous, quand on réintroduit le Boucoutin au niveau du PNR, on n'a pas ce souci-là, forcément. L'espèce de l'ours aujourd'hui, la cohabitation avec les randonneurs ou avec le pastoralisme ou les chasseurs, parce qu'il ne faut pas dire que les chasseurs ou les éleveurs, c'est aussi les randonneurs.
On ne veut pas
que nos montagnes deviennent des sanctuaires. Nous, on veut qu'elles vivent. Et ces montagnes, pour qu'elles vivent, il faut qu'elles aient l'économie. La maire de Seix s'est exprimée il n'y a pas très longtemps. Si les randonneurs commencent à être inquiets en se disant on ne peut pas les randonner là-bas parce que c'est dangereux, vous imaginez ce que ça peut devenir. Donc forcément, c'est un sujet qui est très très complexe à régler.
Kamel Chabli, beaucoup d'auditeurs nous demandent s'il y a assez de pédagogie qui est faite, est-ce qu'il y a beaucoup de panneaux de signalisation, est-ce que là, voilà, il ne faudrait pas former ou...
Vous avez raison, c'est très peu fait. C'est très peu fait parce qu'en fait, aussi l'ours navigue d'une montagne à une autre, c'est compliqué. Mais en termes de signalétique, effectivement, vous avez vraiment raison, votre auditeur qui nous a posé la question. Mmh. Le grand public est très peu informé. Ouais. Les discussions, elles se font entre les différents acteurs de la montagne et le grand public a peu d'informations. Certains peuvent venir en se disant, est-ce que j'espère croiser l'ours dans ma randonnée? Alors certains vous diront, c'est un acte, c'est une attraction touristique, c'est faux. Il n'y a aucun parent qui va se dire « je vais aller me promener en montagne en imaginant croiser l'ours ». Espérant qu'il soit très loin pour pas qu'il vienne vers moi.
Mais c'est vrai.
C'est animé, quoi. On est dans un dessin animé, là.
Ou alors ça se fait un petit peu, mais de loin, un peu...
Dans le Beaucotin, qu'on a réintroduit, nous, le PNR, dans le parc naturel régional, autant celui-là, les gens ont envie de venir le voir. Ils veulent voir comment il se promène dans les montagnes. Ça, oui, mais l'ours, c'est plus complexe, plus dangereux.
0826 300 300, restez avec nous.
Et Pascal Camille qui nous appelle de Toulouse, bonjour Pascal.
Oui.
Ah, il vient de raccrocher.
Ah, Pascal, hein, mince, qui venait d'appeler et qui vient
ça
de raccrocher.
Ça a coupé.
Oui, bah, qui vient
moi,
de...
je voudrais juste rajouter que, voilà, par exemple, beaucoup de moyens sont déployés depuis 25 ans que ce dossier est sur la table, hein, très concrètement. Ouais. C'est un dossier qui a été très mal embarqué dès le départ avec, on va dire, une imposition par rapport aux habitants du territoire de cette réintroduction, qui est une décision politique prise par le gouvernement de l'époque. Et il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Hein. On forme des bergers, on élève des patous, hein, ces énormes chiens qui surveillent les troupeaux, qui sont aussi parfois dangereux vis-à-vis des randonneurs. Donc, il n'y a pas de solution idéale aujourd'hui. Et donc, on voit bien qu'il y a, comme disait Kamel Chabli, on réintroduit à dose homéopathique des animaux qui proviennent d'autres massifs sur le continent européen. Les ours slovanes, hein, c'est ceux qui sont les plus adaptés aux massifs pyrénéens. Et puis, il y a la saisonnalité aussi qui fait que, par exemple, ce qui s'est passé samedi, c'est cette mère qui devait être près de sa tanière avec ses petits et qui se retrouve aujourd'hui à vouloir défendre ces oursons. Donc on pense que c'est l'ours Caramel, et qui, pour l'ironie de l'histoire, en fait, dans cet accident, n'est autre que la fille de Melba, qui elle-même avait été tuée en 1997 lors d'une battue au sanglier avec son petit frère Bootsy. Donc on voit bien que finalement, ces croisements sur les massifs, eh bien, vu de la vallée, c'est très compliqué de se dire comment on va faire pour réconcilier tout le monde et mettre, on va dire, une solution pérenne sur la table. Ça prendra des années. Ouais. On a mis des années à trouver une solution pour le loup, qui n'est toujours pas réglé d'ailleurs, hein, mais il y a une solution qui a été donnée, c'est la possibilité de se défendre pour les éleveurs. Est-ce que ça sera la même chose du côté des Pyrénées pour l'ours? C'est une question hautement politique.
Merci Christine Bouillot, merci Kamel Chabli, hein, troisième vice-président de la région Occitanie, d'avoir été avec nous, et on voit que c'est compliqué, hein, ce dossier. Donc on a plus de temps pour prendre en fait vos appels, 0826 300 300. On va changer de sujet, et là vous pouvez appeler. Qu'est-ce que vous pensez du bilan d'Emmanuel Macron? Une révolution inachevée, c'est le titre en fait du livre de Guillaume Tabar, journaliste au Figaro, qui sera avec nous dans un instant, et qui est revenu avec toutes ses chroniques également de ce quinquennat. Il avait rencontré Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que Emmanuel Macron a fait quelque chose pour la France? Est-ce qu'il en restera quelque chose, en tout cas à l'issue de ce quinquennat, ou pas du tout? Parce qu'il y aura peut-être un autre quinquennat. Hein. Donc, vous n'hésitez pas, on aimerait vous entendre. 0826 300 300. À tout de suite.
9h15, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h19, aux alentours de 9h45, hein, la France à vos côtés. On va vous parler d'une très belle initiative.
Alors oui, évidemment, c'est le covoiturage. Parce que vous l'avez vu, il y a énormément de coûts aujourd'hui.
Oui,
à cause
la voiture,
de l'énergie.
L'assurance.
L'assurance, et voilà, l'énergie, l'essence, les prix de l'essence qui battent des records. Et à cause de ça, bien sûr, évidemment, on cherche des solutions. Alors, les solutions qu'on a mises en place par une application.
C'est l'application Caros. C'est une application de covoiturage pour des trajets, surtout un domicile-travail. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais parfois, à l'intérieur de l'entreprise, vous avez des gens qui habitent à côté de chez vous, vous le savez même pas. Et il y a une application, donc cette application qui fait du covoiturage traditionnel, a décidé de mettre en place un covoiturage cœur voitureur, c'est-à-dire que c'est totalement gratuit. Vous proposez le covoiturage et de façon alternative, c'est un coup c'est vous qui m'emmenez, c'est l'autre coup c'est vous qui l'emmenait. C'est totalement gratuit, donc il n'y a pas de frais. Mais vous pouvez le faire aussi, bien entendu, en faisant payer la moitié de l'essence. Mais en tout cas, ce matin, nous parlerons du cœur voitureur avec l'ensemble de nos invités ce matin. Donc il y aura la coordinatrice, le cofondateur de Carros, Olivier Binet, qui sera avec nous. Et Peggy de Tavernier, qui est conductrice de Carros, qui, elle, applique justement cette opération cœur voitureur.
Oui, voilà, c'est ça. Et vous pourrez réagir. Comment vous faites ? Est-ce que vous-même, vous avez déjà pris des solutions, en fait, certaines solutions comme ça de covoiturage ? Est-ce que, au contraire, vous faites des groupements aussi d'achats ? Alors ça, c'est beaucoup plus difficile, hein, parce qu'on sait que certains tentaient de faire des achats groupés d'essence, mais ça n'a pas bien marché.
Le moment où il fallait le déclencher, il y avait plus personne, effectivement, et les gros industriels, en tout cas les sociétés pétrolières, ne sont pas aguerris à l'exercice, en tout cas, de travailler directement avec les particuliers, mais je crois que ça continue. Hein. Ouais. On avait fait quelque chose dessus, on recommencera, parce qu'ils ont relancé l'opération aussi sur l'achat d'essence en groupe. En tout cas, dites-nous si vous faites pratiquer le covoiturage, est-ce que vous avez envie d'emmener des gens. Souvent, les gens disent que c'est une façon aussi de se créer des amitiés.
Ouais.
Donc, vous nous appelez 0826
dans un instant, on va en parler. Et puis, à propos de covoiturage, on va tout vous dire. C'est-à-dire que, justement, on devait recevoir Guillaume Tabar. Il y a eu un petit problème sur l'agenda. Guillaume Tabar, avec son livre Macron, la révolution inachevée. Petit problème de coordination, problème de covoiturage, du coup, pour venir tout simplement, en fait, aussi à la radio. Et dans un instant, on va quand même continuer avec vos appels. Hein. 0826 300 300 dans l'actualité. Qu'est-ce qui vous interpelle ? Est-ce que vous êtes choqué par ce qui s'est passé dans le match Lyon-Marseille, bien sûr. Est-ce qu'il y a, en fait, évidemment, Macron et la révolution inachevée également, ça vous fait réagir, même si on n'a pas le livre, ou vous continuez de réagir aussi sur cette cohabitation difficile des ours dans les Pyrénées. On va voir ça. Vous nous appelez 0826 300 300. On se retrouve dans un instant.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h25, on va vous demander ce matin votre avis sur ce chasseur attaqué par une ours en Ariège. Qu'est-ce que vous pensez de cette cohabitation, possible ou pas possible ? Et puis on reviendra aussi...
Oui, on va revenir sur tous les autres sujets de l'actualité qui vous interpellent, comme par exemple ce qui s'est passé hier soir entre...
L'OL et l'OM.
Oui, dans le match de football entre Lyon et Marseille. Cette bouteille d'eau en plastique jetée sur la tête, en fait... d'un joueur sur le crâne de Dimitri Payet. Alors, il n'est pas à l'hôpital, il n'est pas, etc. Cela dit, ça reste en fait un geste qu'on ne voudrait pas voir dans un stade. Ce n'est pas le premier en Ligue 1. On va revoir ça en fait dans un instant, on en reparlera. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Quel est votre avis ? Est-ce qu'il faut arrêter dans ces conditions les matchs quand c'est ça ? Est-ce qu'il faut pénaliser en fait les clubs ? Quelle solution faut-il prendre ? Hier soir, en plus, il y a eu 2 heures de tergiversation avant de se décider s'il fallait ou non prendre le match. Et puis, bien sûr, dans l'actualité aussi, il y a cette petite phrase de Jean-Christophe Lagarde qui fait toujours réagir. Lionel nous avait appelé en fait tout à l'heure. Vos appels 0826 300 300. La cohabitation entre les ours et les habitants des Pyrénées. Après ce qui s'est passé samedi dans l'Ariège, le chasseur attaqué par une ours, Carmel, il a été traîné sur une quinzaine de mètres. Elle lui a arraché quasiment en fait la jambe. Il a eu le réflexe de tirer et de la tuer. Alors il était près, évidemment, des oursons. C'est pour ça, probablement, qu'elle a attaqué. Mais comme nous le disait Kamel Chibli tout à l'heure, 3e vice-président de la région Occitanie, c'est dur, c'est compliqué, cette cohabitation, quoi qu'il en soit, parce qu'il y a encore, il y a maintenant beaucoup d'ours dans les Pyrénées. En ligne avec nous...
Eh bien, c'est Marianne qui nous appelle de Crône pour en parler. Bonjour, Marianne.
Bonjour, Marianne. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Marianne ?
Oui.
Oui. Quelle est votre réaction ? Vous êtes sur quelle, j'allais dire, c'est quelle position ? Parce que c'est difficile, hein, cette cohabitation entre les ours et les habitants.
Ma réaction, c'est que si l'ours, la maman ours l'a attaqué, c'est qu'il était près de ses oursons.
Ouais.
Elle les a défendus. Donc on se demande pourquoi il était venu là avec un fusil, sauf à l'idée de tirer sur un ours. Donc c'est parce que les ours, c'est des animaux sauvages. Si on ne s'approche pas trop près de leur progéniture, ils n'attaquent pas.
Mmh. Oui.
Donc là, c'est lamentable de dire que c'est qu'il s'est fait attaquer par un ours. C'est parce qu'il était trop près et qu'elle a défendu ses oursons. Et maintenant, il y a des oursons sans mère qui vont errer dans la nature sans éducation et sur lesquels on va tirer. Ouais. Alors, certainement.
Ouais. Oui. Alors, ce qui a été dit par beaucoup, hein, y compris les autorités sur place, c'est que il y avait une battue aux sangliers parce qu'il y a beaucoup beaucoup trop de sangliers dans ce secteur
très
et qu'il y avait les autorisations, que c'était encadré et donc ils pouvaient le faire. Après, ils ne savaient pas qu'il y avait dans un premier temps, en tout cas, les oursons en fait aussi près, quoi. Et donc, mais c'est vrai. Après, vous avez raison, ça déclenche une réaction de l'ours, quoi.
Hein. Oui, parce qu'il défend sa progéniture, c'est normal. Et quand il se sent, quand il a peur, c'est un animal sauvage, c'est une réaction normale de tout animal.
Ouais.
Même un chat, quand on s'approche de ses chatons, ou un chien de ses chiots, et ben il mord.
Ouais. Mais ouais. Alors, Marianne, comment faire dans cette région des Pyrénées où aujourd'hui on a réintroduit les ours, où il y a des éleveurs, forcément, qui sont dans les montagnes, sur les massifs, là, en l'occurrence, c'était le massif du Couserans, les éleveurs, les chasseurs de temps en temps, et puis, évidemment, aussi des randonneurs, des touristes qui y vont, quoi. Donc, on ne peut pas non plus délimiter les zones, parce que vous ne pouvez pas laisser les ours dans certaines zones, quoi.
Il faudrait baliser les zones. Entre les humains et les animaux sauvages.
Mais balisez, vous balisez, mais les ours ne vont pas se tenir en fait à une zone bien précise. Hein.
Bah, en fait, les animaux sauvages sont peureux,
ouais.
par essence, donc ils vont pas s'approcher des hommes,
ouais.
Sauf s'ils se sentent menacés.
Ouais.
Vraiment, si on les menace avec un fusil, parce que ça penche trop d'eux, comme dans le film L'ours là, de Jean-Jacques Cano, qui est absolument horrible.
Ouais.
L'ours, il ne demande rien à personne, on lui tire dessus pratiquement à bout portant, tout simplement pour se faire plaisir.
Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait un balisage quand même pour dire attention, dans ce secteur, il peut y avoir...
Ne vous approchez pas, comme dans les zoos,
ouais.
on met des barrières pour ne pas s'approcher des animaux sauvages.
Ouais. Sauf que c'est vrai. Sauf que c'est quand même assez complexe parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas tout le temps toutes les zones où ils se trouvent, hein, précisément. Là, en l'occurrence, c'était sur la commune de Seix, dans l'Ariège. Merci, Marianne, de votre témoignage.
Oui.
Je sais que ça fait beaucoup réagir au 0826. 300. L'autre sujet qui interpelle dans l'actualité.
Oui, bah écoutez, c'est le match Lyon-Marseille avec ce qui s'est passé. Hein, Dimitri Payet qui a reçu une bouteille d'eau alors qu'il allait tirer un penalty.
Un corner.
Et pour en parler ce matin, Arnaud Hermant qui est journaliste à l'équipe. Bonjour.
Oui, bonjour Arnaud Hermant.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors ce n'est pas la première fois, mais on a l'impression que ça se répète là en ce moment, ce début de saison, enfin depuis 3-4 mois, hein, ce genre d'incident.
Oui, parce qu'il y a un phénomène qui est assez courant hein, dans le milieu supporter et notamment le milieu ultra. On essaie toujours de faire mieux. Alors là, c'est pas au sens positif, mais on essaie toujours de faire plus que les autres supporters des autres clubs, parce que il y a la compétition sportive, mais il y a aussi une compétition en tribune entre tous ces gens-là. Hein. Et souvent, c'est la surenchère à la bêtise. Alors c'est le nombre de fumigènes, c'est parfois des agressions. Les envahissements de terrain du début de saison, et puis là actuellement, bon, depuis aussi le début de saison, c'est les jets de projectiles. Ça se passe malheureusement quasiment sur tous les stades. Alors parfois ce ne sont que des boulettes, parfois c'est des bouteilles d'eau remplies.
Oui, c'est ça. Alors bon, c'est difficile d'incriminer totalement le club, parce qu'on dit oui, c'est de la responsabilité des clubs qui gèrent ces stades. Bon, sauf qu'une bouteille d'eau, en l'occurrence en plastique, c'est compliqué, on n'interdit pas tout quand même. Quoi.
Mettre des filets peut-être.
Alors normalement, hein, si la palpation est bien faite, vous n'avez pas le droit de rentrer avec une bouteille en plastique qui conserve son bouchon.
Ah oui.
Parce que de ce que j'ai vu, la bouteille avait son bouchon, ce qui fait que ça, c'est pour le coup un vrai projectile. Et lorsque vous achetez quelque chose à une buvette, normalement, on vous enlève le capuchon de la bouteille que vous achetez, ou on vous verse le contenu dans un verre, un gobelet en papier, puisque maintenant il n'y a plus de plastique normalement. Normalement, c'est ça la règle hein, dans les stades, justement pour éviter qu'une bouteille avec son bouchon se transforme en projectile.
Déjà, effectivement, il y avait eu des mesures qui avaient été prises, quoi. Hein, c'est ça.
Bah ça, c'est je vais pas dire vieux comme le monde, mais ça date d'il y a plusieurs années, justement pour combattre ce phénomène de jet de projectiles. Alors après, évidemment, vous pouvez pas interdire aux gens de venir avec un portable, sauf que on sait que les portables deviennent des armes un peu par destination, puisque on enlève les batteries et on jette les batteries. Le fumeur qui vient avec son briquet, le briquet se transforme en projectile aussi. Donc après, effectivement, on peut pas tout interdire non plus. Mais sur les bouteilles d'eau, normalement, il y a déjà pas de bouchon sur les bouteilles d'eau. Et là, sur les images qu'on voit, on a le sentiment qu'il y a un bouchon.
Oui. Alors, il y a eu une tergiversation. Ça a duré quasiment 2 heures hein, hier soir pour savoir s'il fallait reprendre le match ou pas. L'arbitre, dans un premier temps, d'ailleurs, avait indiqué que le match pouvait reprendre. Mmh. Pourquoi, selon vous, ça a été en fait aussi long avant de prendre une décision définitive ?
Bah, moi, de ce que j'en comprends, hein, c'est souvent une double problématique. Il y a la problématique sportive du terrain, qui là, pour le coup, est la responsabilité de la Ligue de football professionnel et donc des gens qui sont sous ses ordres, le délégué, l'arbitre. Donc c'est l'arbitre qui dit on reprend pas, si l'intégrité des joueurs n'est pas assurée, on ne reprend pas. Après, il y a toute la problématique, on va dire, de sécurité publique. Et là, c'est pas la Ligue ou l'arbitre qui peuvent décider. C'est le préfet ou, en tous les cas, les forces de police. Et on est souvent confronté. Alors là, je vois ce matin que tout le monde se renvoie la balle en disant mais non, vous voulez pas reprendre. La préfecture dit mais non, nous, c'est pas nous qui décidons. Bon, je pense que c'est pas complètement vrai parce qu'on a des exemples assez récents dans le passé, notamment le fameux Nice-Marseille de début de saison où il s'était passé à peu près la même chose, des projectiles sur Payet. Alors en plus, il y avait un envahissement de terrain et les deux clubs s'étaient battus sur la pelouse. Mais le match n'avait pas repris au final. Mais les autorités publiques, pour des raisons de sécurité publique, veulent souvent que les matchs aillent à leur terme parce qu'ils ne veulent pas que les gens sortent frustrés et que les problèmes qui sont dans le stade et qui sont généralement plus faciles à contenir s'exportent dans les rues ou dans les alentours des stades et que ça dérape.
Ouais. Merci beaucoup Arnaud Herman pour ces explications donc, sur ce qui s'est passé hier soir. Au 0826-300-300, un supporter.
Oui, on a Nicolas qui nous appelle, qui est supporter de l'OM. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Supporter de Marseille, hein, c'est ça.
C'est ça.
Oui. De l'OM.
Comment vous avez réagi à ce qui s'est passé hier soir ?
Ça devient du grand n'importe quoi. Je veux dire, c'est moi pour être de temps en temps en déplacement même dans les stades et tout en tant que photographe. Enfin, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Je sais pas comment des fois les fouilles sont faites. Enfin, là, c'est une bouteille d'eau, donc il a pu l'acheter à la buvette. Mais
disait Arnaud Herman, c'est-à-dire que même à la buvette aujourd'hui, on ne vous sert plus en fait la petite bouteille.
Il y a plus de bouchon. C'est gobelet, ou bouchon, mais
même avec sans bouchon, c'est un projectile quand même.
Je dirais, dans tous les cas, ça devient du grand n'importe quoi. Et en plus, c'est toujours, quasiment, je dirais, toujours le même qui est visé quasiment sur chaque match. C'est impressionnant.
Oui, Dimitri Payet, qui avait été ciblé aussi lors du match à Nice. Hein, c'est
à
ça.
Nice, pourquoi,
d'ailleurs, à votre avis, les supporters adverses vont cibler Payet?
Pour lui, il y a deux raisons. Bon, déjà, la facilité par rapport du fait qu'il soit au point de corner. Il est statique. Mmh. Et après, deuxième, parce que c'est aussi un ancien joueur de Saint-Etienne, a priori, que certains supporters lyonnais n'aiment pas trop les Stéphanois. Donc, et après, l'OM, etc. Après, la débilité toute simple, hein, aussi.
Ouais.
Si on résume.
Bah oui, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas mettre tous les supporters dans le même panier. Dire par exemple tous les supporters de Lyon hier soir, parce que vous avez vu, hein, derrière il y a eu je crois que c'est un supporter. Oui, il y a eu un échange.
Ou je ne sais plus, j'ai pas bien vu, mais.
Qui eux-mêmes sont pénalisés, quoi, et puis pénalisent leur club, ils viennent pour un spectacle, quoi, bien sûr.
Après, voilà, un peu représentatif de tout ce qui se passe. Vous avez 60 000 personnes dans un stade, vous ne pouvez pas tout le monde a les mêmes réactions, pas tout le monde a les mêmes. À la même vie, en plus le foot reste très populaire, donc il y a un peu tout.
Nicolas, est-ce qu'il faut un retrait de points pour les clubs dont les supporters créent des débordements?
C'est un peu. Je suis pas juriste, je suis pas machin, mais c'est dur. D'un côté, c'est dur de contrôler tout le monde. Hein. Enfin, je vois nous, même au Vélodrome, il peut se passer des jets de gérants en voie contre Paris, tout ça, il se passe des choses. Après, le retrait de points, est-ce que c'est la solution? Par contre, clairement, le match ne devait pas reprendre. Je veux dire, c'est un broglio qu'il y a eu. C'est surtout ça qui était du grand n'importe quoi, qu'il n'y ait pas des patrons qui décident de suite d'arrêter le match. Point fini, on arrête. On peut pas continuer comme ça. C'est surtout ça qui était le pire hier soir, que tout le monde se renvoie la balle. Plus que les points, plus que tout ça. C'était le joueur qui était agressé, reprendre avec un joueur qui était blessé. Enfin, c'était impossible.
Après, il n'avait pas une blessure en fait très grave, mais il avait le choc. Il y avait le choc, bien sûr. Non, mais c'est ça. Vous n'êtes pas forcément en état de reprendre, quoi. Bien sûr. Quoi. Et puis quand vous allez tirer,
vous avez un accident de la route, vous n'êtes pas forcément de reprendre de suite le volant.
On est bien d'accord. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que vous allez régulièrement voir des matchs, que ce soit à Marseille ou ailleurs, que ça se dégrade un peu, ou alors c'est vraiment le fait quand même de gens isolés?
Ça reste des gens isolés, mais je pense que... Covid, pas Covid, je ne sais pas tout ce qui se passe, mais il y a une certaine envie d'extérioriser, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais oui, il y a des manifestations qui sont quand même un peu plus visibles qu'avant, et en plus maintenant, ben voilà, avec tous les médias, les réseaux sociaux, tout se voit encore plus vite, et il s'en passe quand même plus, je pense.
Oui, c'est vrai. C'est assez fou, hein, d'ailleurs, parce que le nombre de vidéos que l'on voit là sur les réseaux sociaux sur ce match, on a quasiment, sur cet angle, sur ce qui s'est passé avec ce jet de la bouteille d'eau, on voit ce jet sous tous les angles.
Même avec la gifle que lui a mis le supporter.
La gifle et puis des tribunes, où on voit qu'ils étaient quand même un peu chauffés, dans ce petit coin de supporters qui ont lancé cette bouteille, ce projectile sur Dimitri Payet, parce que les mots, je ne vais pas les répéter là, mais c'était Payet, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et ça monte et ça monte et ça monte, et puis il y en a un qui balance le truc, quoi.
Ouais, et voilà, et après la cible parfaite à l'arrêt au point de corner, c'est la cible parfaite.
Oui, parce qu'on est vraiment très près. Hein,
après, il faudra mettre des filets partout, peut-être.
Ouais, ouais. Ouais. Défilé. Merci en tout cas de votre témoignage, Nicolas. Bon, c'est dommage, évidemment, c'est regrettable parce que ça devait être une belle fête du football. D'autant que les deux équipes, et notamment Marseille, qui a redressé la tête cette saison, on pouvait s'attendre à un beau match. Ouais, non, mais c'est vrai. Et Payet, notamment, qui est quand même assez étincelant depuis le début de saison. Mais c'est vrai, il est impressionnant. Il est même.
Retour, comment va se passer, parce qu'il y a déjà les matchs jeudi qui reprennent en Coupe d'Europe.
Oui, complètement. Merci en tout cas d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio. Allez, dans un instant, la France à vos côtés. On poursuit avec.
Le covoiturage des trajets domicile-travail avec une application qui s'appelle Caros, qui va vous permettre de faire du covoiturage, mais totalement gratuit. Vous allez voir, on en repart dans un instant. À tout de suite.